Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. Cyril Kileba. Il est journaliste, il est éditeur du journal des postes paraissant à Kinshasa. Bonjour M. Cyril Kileba.
Bonjour Mathieu, bonjour aux éditeurs de Radio Okapi.
Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza, vice-présidente de la Société Civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la Société Civile. Elle est aussi coordonnatrice de l'APBEL collectif Simama Congo. Bonjour Madame Néné Bintou Iragi Moudekereza.
Oui, bonjour Guy, je salue également les débatteurs et les autres auditeurs et auditrices de Radio Okapi.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romeda, il est journaliste au magazine Jeune Afrique et il est chargé de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs. Bonjour Monsieur Romeda.
Bonjour Guimaté, merci à vous et merci à vos auditeurs de nous rejoindre aujourd'hui.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine et l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Cyril Kileba. Il est journaliste et il est éditeur du journal des postes paraissant à Kinshasa. Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza, vice-présidente de la Société Civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la Société Civile. Elle est aussi coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romeda, il est journaliste au magazine Jeune Afrique et il est chargé de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs. Au menu de cette mission, publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle de décembre 2023 avec comme question, est-ce qu'un Genève bis est possible? L'énigme Wazalendo, afin les difficultés que prouvent les Congolais pour se déplacer à l'intérieur du pays par avion. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la crise entre le gouvernement et les pétroliers. En effet, le gouvernement rassure qu'il n'y aura pas des perturbations dans la fourniture des carburants. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, l'a affirmé mercredi 18 octobre. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde avait convoqué mardi 17 octobre une séance de travail avec le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, les représentants des banques ainsi que des pétroliers. La problématique du PMA, des manques à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers pour parer à toute perturbation dans l'approvisionnement a constitué les principaux points examinés. Il en ressort, selon Nicolas Kazadi, une harmonisation des points de vue pour finaliser les accords intervenus entre le gouvernement, la profession pétrolière et les banques. La peur de la perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers est venue de la lettre que le groupement professionnel des distributeurs de produits pétroliers avait adressée au ministre de l'économie nationale le 11 octobre. Cyril Kileba, cette crise que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons encore vécu l'année dernière et nous la vivons chaque année et c'est devenu récurrent. Les gouvernements subventionnent les carburants mais n'arrivent pas à payer à temps les manques à gagner. Comment vous comprenez cela?
Mais je ne sais même pas si je comprends ça. Je ne sais pas il y a combien de Congolais qui comprennent finalement ces jeux-là. Mais c'est quelque chose d'assez curieux quand même. Et moi, je veux seulement me permettre un tout petit commentaire. Je constate que à chaque fois, les pétroliers, par les biais de cette subvention, tiennent entre leurs mains un élément de chantage sur les pouvoirs publics. Et à chaque fois, ça marche. Alors, je ne sais pas, bah, il faut poser la question aux économistes pour comprendre. Mais moi, je voudrais plutôt relever une chose que je ne comprends pas. Les carburants est subventionné. Très bien. À Kinshasa, vous achetez les litres à un prix X. Mais si vous allez dans les grands Bandundu, dans l'ex-grand Bandundu, ici à Kenge, à Kikui, le prix à la pompe est supérieur au prix à la pompe à Kinshasa, mais c'est le même carburant subventionné. Mais je ne comprends pas à ce moment-là qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, il y a vraiment un jeu, à mon point de vue, assez malsain entre la profession pétrolière et le gouvernement. Bon, de toutes les façons, on sait qu'il y a eu des scandales dans ces domaines-là, il ne faut pas s'en cacher. Il y a eu des scandales au début du règne de Félix Tshisekedi. Il y a eu un scandale dans ce secteur-là, justement à cause de cet argent-là, de subventions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas tout à fait clean, qui n'est pas clair. Tout ce que je peux dire.
Merci beaucoup, Maître Nene Bintou Iragi Moudekereza. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences. Hein. Vous avez un produit qui est subventionné, mais qui a des prix différents selon les provinces. Il y a aussi ces problèmes. Il faut que les pétroliers fassent d'abord pression pour que le gouvernement décide de payer, et souvent avec beaucoup de réticences. Et pourquoi, à votre avis, les choses ne s'améliorent pas? Pourquoi, à votre avis, les choses ne changent pas?
Oui, la raison est simple, Guy. C'est parce que on a un certain système de prédation dans ces histoires-là. On ne sait pas comprendre comment, quand on négocie, notre gouvernement négocie avec les opérateurs économiques, promet des choses et après ne réalise pas et ne calcule pas les conséquences que cette pression des pétroliers exerce sur la population en cas de non-livraison de carburant, comme c'est le cas maintenant dans la ville de Bukavu, où le litre est passé de 3400 francs à 5000 francs congolais. Du coup, vous trouvez qu'il ouvre à une autre tarification. Et pourtant, on est dans un même pays, donc on se pose des questions. Et je me rappelle un moment donné, le chef de l'État, au début de son règne, lui avait posé cette question-là. Il avait dit: il y a des histoires de rétrocommission. Et il avait même dit que la rétrocommission dans ce domaine-là était légale. Donc moi, je pense que c'est une manière irresponsable de nos autorités au niveau national à ne pas considérer les besoins de la population par rapport au droit d'aller et venir. Parce que quand les pétroliers bloquent la livraison de carburant, ce sont les enfants qui ne vont pas à l'école, ce sont les affaires qui sont bloquées, et donc c'est la pénurie a des conséquences vraiment incalculables, et nos autorités devraient avoir cela à cœur, penser à bien régler la question avec les opérateurs économiques pour protéger les droits de la population. Mais on met d'abord en avant les intérêts égoïstes, avoir de l'argent, tout le monde veut s'enrichir, et puis on piétine la population, alors que c'est cette même population-là auprès de laquelle on va recourir pour livrer telle ou telle autre marchandise. Donc moi, comme venait de le dire mon prédécesseur, je crois que c'est un scandale et c'est une situation honteuse qui doit quand même trouver des réponses le plus rapidement possible, parce que vraiment, l'État ne devrait pas avoir une attitude pareille.
Merci, M. Romega. Beaucoup de pays africains connaissent cette situation, ce qui fait que certains experts recommandent de mettre fin à ce système de subvention des produits pétroliers pour, n'est-ce pas, revenir au prix réel. Or, on sait ce que cela peut avoir comme conséquence sur les prix des produits de première nécessité, avec des contestations qui peuvent s'en suivre. Comment, à votre avis, les gouvernements africains doivent décider face à ce dilemme?
Ben, je pense que les situations sont propres à chaque pays. Si on prend l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, je pense que c'est une situation qui dure depuis longtemps et dont les causes sont retraçables encore avant l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, au sens où depuis plusieurs années, face à la flambée des prix du pétrole, qui est directement liée parfois au mouvement de l'actualité internationale, on le voit avec la guerre en Ukraine, il y a une flambée des prix du pétrole et le gouvernement depuis plusieurs années a pris la responsabilité de prendre en charge une partie des prix à la pompe en versant justement aux sociétés pétrolières le manque à gagner sur le prix du carburant, mais c'est une solution qui est très coûteuse et on voit bien les dysfonctionnements qu'on observe aujourd'hui, qu'on a observé il y a un an, vous l'avez rappelé, où on a eu le même problème avec un risque, la menace d'un risque de pénurie, c'est qu'on a du mal à trouver des solutions pérennes à ce problème. Je me souviens qu'il y a un an, quand il y a eu le même problème qui s'est posé, des pistes avaient été évoquées, on avait plus ou moins expliqué qu'on envisageait de ne plus subventionner éventuellement les grandes entreprises, notamment dans le secteur minier, qui n'avaient pas nécessairement à bénéficier de ce type de facilité, mais il y a de toute façon ce problème chronique qui se résume au fait qu'on a du mal à apporter des solutions de long terme. On sait que le gouvernement veut essayer de capitaliser sur les ressources pétrolières du pays, c'est pour ça qu'il y a eu l'appel d'offres qui a été lancé en juillet 2022, mais dont on peine à voir pour l'instant la véritable finalité. Et c'est une question qui va devenir de plus en plus cruciale alors qu'on va rentrer dans une période d'élection. Il va nécessairement y avoir des mouvements de population, des besoins d'approvisionnement, et où cette question-là va avoir un impact direct sur différents facteurs de la période à venir.
Merci. On prend une petite pause avec Afrique Kanamoto de Carlito Lassa et revient juste après. Kanamoto de Carlito Lassa. On revient à l'actualité de cette semaine. La Commission électorale nationale indépendante CENI a provisoirement déclaré recevable vendredi 20 octobre toutes les 24 candidatures à la présidence de décembre 2023. La reporteuse de cette institution, Madame Patricia Seya, a dévoilé cette liste à la chaîne de télévision nationale RTNC. Selon l'article 27 de la loi électorale, la Cour constitutionnelle dispose de 7 jours pour rendre sa décision sur cette publication. Passé ces délais, la CENI va arrêter et publier sans délai la liste définitive des candidats président de la République. Romain Grain, vous êtes journaliste au magazine Jeune Afrique. Vous êtes chargé de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs. Vous nous avez proposé ces sujets en les formulant ainsi. Est-ce qu'un Genève bis est possible? Mais d'abord, comment vous réagissez à la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle?
C'est une étape de plus vers les élections qui se tiendront le 20 décembre. Ça reste pour l'instant des listes provisoires. On attend le fin mot de la Cour constitutionnelle. Je pense que, et on va en parler, dans les prochaines minutes, tout ceci place l'opposition notamment dans un calendrier très très serré, sachant que la campagne électorale débute le 19 novembre, pour décider ce qu'elle souhaite faire en termes de potentielles alliances ou non avant le scrutin, sachant que, comme chacun sait, l'élection présidentielle se déroule à un tour. Et la multiplication des candidats affaiblit nécessairement les chances de l'opposition dans ce format-là.
Alors, la question que vous êtes posée, c'est est-ce qu'un Genève bis est possible? Et on vous écoute.
Je pense que c'est désormais en fait la question qui va se poser pour tous au sein de l'opposition. La coalition présidentielle a pris soin ces dernières semaines d'afficher un front uni. On a vu que le chef de l'État a déposé sa candidature en présence de nombreux poids lourds de sa coalition, de nombreux ministres. Désormais, la question qui se pose, c'est de savoir dans quelle disposition l'opposition va se présenter à l'élection présidentielle. 23 candidatures d'opposition, plusieurs candidats qui disposent d'un poids politique important, que ce soit dans les institutions ou en termes de popularité à travers le pays, hein, sans dégager des candidatures plus que d'autres. Il y a tout de même la candidature de Martin Fayulu, qui était déjà candidat en 2018, celle de Moïse Katumbi, de Matata Ponyo-Mapon, de Denis Mukwege, de Délice Essanga. Il y a plein de candidatures qui sont des candidatures qui peuvent représenter un poids politique certain. Ces gens-là vont devoir décider s'ils veulent y aller ensemble ou s'ils veulent y aller chacun de leur coin, sachant, comme on l'a dit, que c'est une élection présidentielle à un tour. Maintenant, la question, c'est de savoir qui peut discuter avec l'autre et sous quel format, selon ce que nos sources dans les différents états-majors politiques nous disent. Il y a des discussions de manière très informelle à ce stade qui ont débuté sans que le projet d'une candidature commune soit formellement arrêté. Mais la question, c'est de savoir qui serait capable aujourd'hui de se ranger derrière qui, sachant que chacun défend la légitimité de sa candidature à être celle commune de l'opposition. On a encore entendu Martin Fayulu récemment sous-entendre que son profil présentait les caractéristiques d'une candidature commune de l'opposition. Denis Mukwege a beaucoup tardé à formellement annoncer sa candidature. Est-ce que maintenant qu'il l'a fait, il sera prêt à l'effacer pour se ranger derrière quelqu'un d'autre? On sait que Moïse Katumbi avait été empêché de se présenter en 2018 et que désormais ses lieutenants font assez peu de mystère sur le fait qu'il a l'intention d'aller au bout de cette démarche. Puis il y a d'autres candidatures dont on ne sait pas encore sous quel format elles aboutiront au moment où la campagne se lancera. On a notamment le cas de Matata Ponyo qui présente la caractéristique assez singulière par rapport aux autres candidats d'être actuellement visé par une procédure judiciaire qui se poursuit malgré son absence, hein, comme la Cour l'a statué. Donc il y a plein de questions qui vont se poser aujourd'hui sur la capacité des uns et des autres à discuter ensemble et éventuellement à statuer in fine sur une candidature commune, sachant que la campagne électorale débute dans moins d'un mois désormais, puisque ce sera le 19 novembre.
Merci, Monsieur Cyril Kileba. Vous êtes journaliste et éditeur du journal des postes paraissant à Kinshasa. Ce qui a caractérisé Genève 1, c'est le fait que plusieurs leaders de l'opposition tenaient mordicus à devenir candidat commun de l'opposition, au point qu'on a, n'est-ce pas, opté pour un opposant qui n'était pas parmi ceux qu'on citait souvent. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette même opposition, on peut dire que le contexte d'aujourd'hui est similaire à celui de 2018 ?
Non, pas du tout. Le contexte n'est pas similaire. Il faut rappeler qu'en 2018, ce qui a rendu surtout possible une candidature commune de l'opposition, c'est le fait que parmi les votants de Genève, il y avait déjà des exclus. c'est-à-dire des gens dont les candidatures avaient été retoquées. Et donc, cela a favorisé plutôt le choix d'un candidat commun parce que, je l'ai toujours écrit, je le dis toujours, parce que l'homme politique congolais n'est pas du tout altruiste et il n'est pas humble. Et lorsqu'il s'agit d'une candidature, chacun veut prêcher pour sa chapelle. Et ils sont très peu portés vers l'intérêt commun et il serait difficile donc de les forcer à trouver une candidature commune, surtout dans ce contexte où déjà tout le monde est partant. Bon, on verra au niveau de la Cour constitutionnelle, certainement qu'il y aura... Il y aura quelques candidats qui seront éliminés, ça c'est sûr. Et je ne lis pas dans une boule de cristal, mais enfin, c'est ma foi d'analyste qui me le fait dire. Mais ils seront très peu. Mais aussi, on peut penser que si l'un ou l'autre candidat peut se retirer, on connaît déjà à peu près, il y a quand même, je vous dis, sur cette liste-là, n'ayons pas peur ou honte de les dire, il y a quand même des candidats pour rire. Et on sait pour qui ils roulent. Il y a des candidats qui roulent pour d'autres. Donc, ils se rangeront derrière ceux pour qui ils roulent pour leur donner à ceux-là la chance de devenir candidat commun. Mais je ne suis pas sûr qu'in fine, nous, on aura un candidat commun cette fois. Je ne suis pas convaincu.
Merci, Madame Néné Bintou Iragi Moudekereza. Vous êtes vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile et coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour que l'opposition puisse se choisir un candidat commun aujourd'hui?
Oui, merci beaucoup, Guy. À chaque élection, ces surprises, ces défis, c'est depuis 2006 qu'on a commencé le processus. Il y a toujours des surprises chaque fois. Et donc, soit c'est la loi qui est modifiée, soit c'est le dialogue qui est organisé pour mettre les uns et les autres autour d'une même table. Et après, on va aux élections. Il y a les gens qui postulent pour être positionné dans les gouvernements ou dans des entreprises ou ailleurs au cas où il ne serait pas élu. Et donc, moi, je ne sais pas. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent s'offrir. Et je constate d'abord qu'il y a la candidature de Vital Kamerhe qui n'a pas été déposée. Donc, il n'a pas déposé sa candidature. On sait quand même qu'il est un acteur qui influence les tendances parfois. Alors, nous avons la loi sur l'organisation et fonctionnement des partis politiques qui prévoit qu'on doit en principe avoir un coordonnateur de l'opposition. Jusque là, on l'a jamais eu. Il y a toujours des discussions interminables. L'opposition n'est pas à mesure de désigner un coordonnateur. Alors, est-ce qu'il faut aller à Genval encore pour ça? Est-ce qu'il faut exiger les dialogues avant les élections? Donc, il y a plusieurs hypothèses qui pointent à l'horizon. Mais je me dis qu'avec l'analyse des dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle, certainement qu'il y en aura qui ne seront pas retenus pour tel ou tel autre motif. Mais tout est possible. Tout est possible, soit qu'ils peuvent se concerter à voir cette fois-ci le chef de file de l'opposition. Et je ne sais pas encore qui fera l'unanimité de tous. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est déjà une étape déjà franchie par rapport aux étapes du processus électoral. On attend aussi au niveau des provinces la liste définitive parce que les recours venaient d'être traités au niveau des cours d'appel. Et donc tout est lié, mais je me dis que les choses ne sont pas encore bien déterminées. On va suivre les arrêts de la Cour par rapport à ces candidatures-là. Au Congo, il y a des improvisations, il y a souvent des alliances contre nature, on a vu, qui ne sont pas respectées par la suite. Donc, on va voir comment nos politiciens vont se comporter pour cette élection attendue le 20 décembre. N'oubliez pas également que ceux-là qui ont postulé avec la casquette de l'opposition ont posé des préalables. Selon Paulou qui est venu après, a dit qu'il y avait une évolution, mais d'autres ne sont pas de cet avis. Et donc, il y a tellement de contradictions entre eux autour des questions des défis électoraux, pardon, avant les élections. Il y en a qui parlent de que l'audit ne rassure pas, la liste des électeurs n'est pas affichée, la CENI a promis de le faire, ne l'a pas encore fait. Est-ce qu'une fois confirmé candidat, ils vont continuer à soulever des préalables avant les élections où on va partir comme ça et après il y aura des contestations? Donc, je pense qu'on peut peut-être attendre d'abord que la Cour publie la liste définitive et on verra comment les acteurs vont se positionner.
Merci. Romega, vous êtes d'accord avec cette opinion selon laquelle si l'opposition allait à ces élections en ordre dispersé, ce serait pour elle une façon, n'est-ce pas, de préparer les lits à Félix Tshisekedi, ce serait pour elle une façon de faciliter la réélection de Tshisekedi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion-là?
Je pense que l'idée est assez répandue et elle est par ailleurs assez logique, j'allais dire d'un strict point de vue mathématique, non pas qu'on puisse résumer les élections à cela, mais si plus il y aura de candidatures d'opposition, plus le front autour du chef de l'État aura de chances en principe de peser dans les urnes. Maintenant, je pense que ce qu'il y a d'intéressant, ce qui a été dit par mes prédécesseurs tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans le même contexte qu'en 2018, où des personnalités politiques d'envergure certaine, comme Jean-Pierre Bemba ou Moïse Katumbi, n'avaient pas été en mesure de déposer leur candidature. Là, on se retrouve dans une situation où la plupart, si c'était la quasi-totalité, si on exclut Joseph Kabila, qui va au bout du boycott, la plupart des personnalités qui sont actuellement dans l'opposition sont sur la ligne de départ pour le moment avant la décision de la Cour constitutionnelle. Donc dans quelle mesure certains d'entre eux seront capables de renoncer à leurs propres ambitions, c'est ce qui va déterminer maintenant la suite du processus pour l'opposition.
Merci, on prend une petite pause avec Course au pouvoir de Vicky Lungomba et on revient juste après.
Okomina yembele yembele, lokola mwane tike bandeko. Nyoso yoko yembele nga, nezali kaka kurso pouvoi. Olobinga na nyati liyati, yon nyati tonga mon frère. Yango ye kurso pouvoi. Oyembelinga babi priveo, wana ne mote malokoso. Lelo na babi priveo, lobi ekokoma na bafami. Lobi na jala ki mon frère, lelo na komi opposition. Okomi de yembele yembele, lokola mwane tike bateko. Yoko yoko yembelanga, nejali kaka kurso pouvoi. Olobinga na nyatili yati, yo nyatito na mokwe. Olinga kanazu wakateo, poto yeba na bomwana. Olinga kabatanga kateo, kombo nanga na miso na yo. Olinga kako sala samblo na mola munga na salayo. Olinga kako yo kakateo, opoko asali likambo boye olingaka tosala concurrence la moya ekozangaka yo obomi miziki ya bato na lopako na yo yokomi
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer à revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la crise entre les pétroliers et les gouvernements congolais. Nous avons également analysé les possibilités d'un Genève 2. Participe à cette émission, Cyril Kileba, il est journaliste et l'éditeur du journal des postes parisien Kinshasa, Maître Néné Bintou Iragi Mudekereza, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile, elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo, et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romega, il est journaliste au magazine Jeune Afrique, il est chargé de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs. Dans un télégramme adressé à l'administrateur du territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire intérimaire, le général-major Peter Chirimwami, a demandé à l'administrateur du territoire libéré des mains du M23 d'instruire d'autres services afin de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Depuis début octobre, des jeunes patriotes résistants appelés Wazalendo ont pris les armes pour en découdre avec les rebelles du M23 qui occupent trois territoires de la province du Nord Kivu, à savoir Masisi, Rutshuru et une partie de Nyiragongo. Cyril Kileba, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de ce que vous appelez énigme Wazalendo. On vous écoute.
Oui, en parlant d'énigme Wazalendo, je m'inspirais de notre éditorial publié cette semaine, justement, qui était intitulé « L'énigme Wazalendo ». Pourquoi énigme? Parce que c'est une chose difficile à comprendre, difficile à expliquer et difficile à connaître. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de gens se posent des questions sur ce mouvement qui a surgi et qui, tout d'un coup, se met à enclencher des victoires militaires sur des ennemis, là où l'armée régulière n'a pas pu faire grand-chose depuis plusieurs années. Alors, nous essayons de nous interroger. Nous avons plus de questions que nous n'avons de réponses, en réalité, parce que les Wazalendo, dans un premier temps, on les a présentés comme étant un mouvement mystico-religieux, et puis ils ont même été victimes d'un massacre par une partie de l'armée régulière, et puis tout d'un coup, c'est eux qui s'élèvent, et les voilà qui vont à la reconquête des territoires que la République avait perdu. Mais alors, on est en droit de se demander, mais qui sont-ils? Mais on n'a pas de réponse. Tout ce que nous savons, c'est des Wazalendo. Donc, ce sont des patriotes. En tout cas, comme patriote congolais, je suis émerveillé par leur action. Comme beaucoup de Congolais, comme beaucoup de patriotes, nous sommes émerveillés par leur action et nous sommes contents que, au moins là où notre armée n'a pas pu faire quelque chose, qu'il y ait des patriotes qui font quelque chose et qui nous permettent de récupérer petit à petit l'intégrité de notre territoire. Mais, passé cet émerveillement-là, nous avons des questions à nous poser.
Il y a beaucoup de questions, comme vous le dites, des questions aussi que la population se pose sur notamment leur organisation, leur approvisionnement en matériel de combat et même leur capacité à résister devant l'ennemi. Vous avez pu trouver des réponses à cette énigme, monsieur Cyril Kileba?
Quand bien même j'aurais trouvé des réponses, je ne serais pas fondé de le donner. Parce que, vous savez, cette partie-là, c'est une partie très sensible. Ça fait 3 décennies que cette partie-là de notre territoire souffre. Et si, comme ça, par enchantement, on a même des magiciens qui viennent délivrer nos compatriotes, délivrer notre territoire, pourquoi voulez-vous que je donne des réponses à ce genre de questions? Donc, je suis un peu aussi tenu par cette fibre, disons-le, patriotique. Bon, mais comme on dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ben, nous voulons bien voir la fin et peut-être si on comprendra la fin, si c'est des héros, nous les applaudirons, on continuera à les applaudir et puis on va les distinguer. Et puis, tant bien même ils auraient été des diables, pour autant qu'ils nous permettent de récupérer nos territoires, pourquoi nous les enverrons en enfer?
Merci. Merci, Madame Néné Bintou Iragi Moudekereza. Le silence du gouvernement face au phénomène Wazalendo peut s'expliquer par quoi, à votre avis?
Bon, je pense que quand la nation est en péril, c'est tout le monde qui est appelé à défendre la nation. Le chef de l'État lui-même avait appelé à une mobilisation générale de tous les Congolais contre l'agression de la RDC. Vous avez vu des jeunes gens se déployer pour être recrutés pour faire partie intégrante des FARDC. Je crois qu'ils sont presque à la fin de la formation. Et le plus grand nombre de recrues est venu de la partie est de la République démocratique du Congo. Je crois qu'à Bukavu, au site Kivu, c'est environ 5000. Je ne connais pas encore les chiffres de ceux qui seraient partis du Nord Kivu. Et donc, la constitution de notre pays, en son article 64, dit que tout Congolais est appelé à s'insurger contre les personnes qui veulent exercer les pouvoirs en violation de la loi. Et c'est le cas notamment pour le M23. On ne se pose pas beaucoup de questions sur leur approvisionnement en armes. On ne se pose pas de questions sur qui est souvent derrière eux, etc., etc. Et donc, pour moi, ce sont des patriotes qui ont compris que la nation est en péril et face à l'hypocrisie de la communauté internationale qui a déployé la force de l'EAC là-bas. L'EAC est là, quand vous allez à Goma, vous voyez des équipements qu'ils ont et tout, mais ils ne parviennent pas à récupérer les parties occupées. Et pourtant, cette force-là est venue pour cela. Mais à notre analyse, avec la présence de l'EAC, les terroristes du M23 avaient pris plus de localités qu'ils en avaient avant. Et donc, quand on voit quand même des Congolais, des patriotes sans peur qui disent qu'il faut quand même qu'à un moment donné, le calme soit rétabli, je ne pense pas que le gouvernement peut dire qu'il est contre ou il est pour cette solution là-bas. Donc, comme à la société civile, nous avons toujours réclamé, ça fait plus d'une année que Bounagana est occupé. Et donc, s'il faut récupérer Bounagana et toutes les autres localités occupées, ça peut toujours permettre aux compatriotes de la partie est de la RDC, donc, notamment dans les territoires de Rutshuru, de Masisi, de participer aussi aux élections, pourquoi pas. Donc, je crois qu'il y a aussi une réponse de motivation de leur part quand le gouvernement a parlé a proposé ou a décidé de faire une loi sur la réserve militaire nationale. Donc les Wazalendo, je crois en grande partie, se sont sentis interpellés et concernés par cela parce qu'avant, quand on a discuté à Nairobi sur cette question-là des PDDRCS, de déposer les armes sans condition et tout, je me rappelle que c'était une discussion farouche. Les Wazalendo, donc les membres du groupe armé, avaient refusé de déposer les armes tant que l'ennemi est encore sur notre territoire. Et donc moi, je suis sûr que le gouvernement, par contre, devrait voir comment, parce qu'il y a, des jeunes gens qui ont quitté, sur l'appel du gouvernement, qui ont quitté les brousses pour venir soit se conformer aux mesures qui seront prises dans le cadre de la réserve armée, mais qui attendent toujours que ça soit formalisé. Moi, je crois qu'il est temps pour le gouvernement de finir cette question-là des réservistes, de voir comment clarifier aussi les questions de recrutement, les questions de PDDRCS. J'apprends déjà qu'il y a un nouveau coordonnateur en la personne de M. l'abbé Jean Bosco Bahala, que je félicite en passant, un fils du site Kibou que je félicite en passant. Et donc, moi, je crois qu'il est temps de connaître la paix, parce que trop c'est trop avec cette guerre imposée qui n'a que trop duré. Nous avons attendu la solution de l'EAC, la solution n'est pas venue. La MONUSCO est en train de partir, n'a pas mis fin à l'agression de la RDC. Nos phares de ce sont en train d'être montés en puissance et on doit quand même féliciter le gouvernement pour ça, parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui ont évolué, la loi sur la programmation militaire et tout. Et donc que tous les efforts soient mis ensemble pour que la paix soit définitivement rétablie. Que l'autorité de l'État revienne dans cette partie-là. Ça fait 2 ans que les enfants n'étudient pas, qu'il y a l'administration étrangère qui gère les taxes, qui viole, qui fait toutes sortes d'exactions devant les yeux de la communauté internationale. Et donc, les Wazalendo ont compris qu'on en avait quand même marre et qu'il fallait quand même faire quelque chose pour
Merci.
Que les Congolais sentent qu'ils sont encore sur leur propre territoire.
Merci. Romexa, ça peut être quoi les revers de la médaille de cette stratégie qui consiste à laisser ces patriotes Wazalendo faire le travail que devraient en principe faire le FRDC?
Comme l'ont dit mes prédécesseurs, ça soulève beaucoup de questions. Tout d'abord, la position du gouvernement, elle a été plus ou moins exposée sur la question par le ministre de la Communication, hein, Patrick Muyaya, il y a quelques jours. Il a en substance dit que les compatriotes qui défendent la patrie ne peuvent être qualifiés de force négative, tout en précisant que le gouvernement tient à la question du cessez-feu, qui ne se distance pas des démarches diplomatiques. La question que ça soulève déjà, c'est celle du rapport de force sur le terrain. On est sur une dynamique totalement différente de celle de la précédente grande offensive qui avait été en mars de cette année, avec notamment une importante bataille à Sake. Mais à cette époque-là, donc il y avait déjà les mêmes critiques sur l'efficacité, ou le manque d'efficacité plutôt, de la force régionale. Mais sur le terrain, on avait plus l'armée congolaise et les sociétés militaires privées Agemira et Congo Protection, qui sont présentes dans la zone depuis le mois de janvier. On est dans un schéma du coup complètement différent aujourd'hui, où avec ce phénomène des Wazalendo, qui est beaucoup plus présent sur le terrain et qui a progressé dans différentes localités. On a aussi beaucoup vu et beaucoup entendu, notamment de sources basées à Goma, l'implication à côté d'autres mouvements armés comme NDC ou APCLS. Maintenant, qu'est-ce que ce nouveau rapport de force sur le terrain va engendrer comme réponse de la part du M23 ? Accusé d'être soutenu par le Rwanda notamment. La question, c'est quelle va être leur réponse désormais sur le terrain? Est-ce que cette offensive va continuer à se poursuivre dans le sens d'une progression des Wazalendo, ou est-ce qu'il va y avoir, j'allais dire, une contre-offensive d'envergure? C'est ce qu'on verra dans les prochains jours.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Suite Fanta Diallo d'Alpha Blondie et on revient juste après.
Thank you. da hoki ming on de mantenta. Once I kiss the ming on the burning heart. Sweet, sweet, manta dialo, ooh ooh, manta dialo. Sweet, sweet, manta dialo, ooh ooh, manta dialo. One manta fiwe, when the sun. One manta mechiwe, under the sun. One manta fiwe, when the sun. One manta mechiwe, under the sun. Over and over again, she fiwe, with the sun. Over again, again, she mechiwe, under the sun. Over and over again, she fiwe, with the sun. Over and over again. Wondering where she's gone. I keep on wondering where she's gone, gone, gone. I keep on wondering every day. I keep on wondering where she's gone, gone, gone. Sweet, sweet, Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo, ooh ooh, Fanta Diallo. Fanta walking on the rainbow.
C'était Suite Fanta Diallo d'Alpha Blondie. Alpha Blondie, c'est Reggaeman ivoirien qui n'est plus à présenter. On revient à la toute la semaine. Je rappelle que nous avons dans cette émission Cyril Kileba, il est journaliste et il est éditeur du journal des postes, paraissant à Kinshasa. Madame Néné Bintou Iragi Mudekereza, vice-présidente de la société civile du Sud Kivu, chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Gras, il est journaliste au magazine Jeune Afrique. Il est chargé de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs. Les difficultés qu'éprouvent les Congolais pour se déplacer à l'intérieur du pays par avion, mais aussi les contraintes auxquelles seront soumis les candidats aux prochaines élections, ont poussé les sénateurs Ladi Yangotikala Senga à adresser la question orale avec débat au ministre des Transports et Voies des Communications. Pour ce sénateur de la province de la Tchopo, il n'est pas normal que ces grands pays aux dimensions continentales n'arrivent pas à avoir des compagnies d'aviation. Il exige des explications du ministre afin d'amener le gouvernement à trouver rapidement des solutions pour désenclaver les provinces par avion. Il craint que la sollicitation régulière de l'unique compagnie aérienne crédible puisse entraîner des conséquences. Madame Néné Bintou Iragi Mudekereza, vous nous avez proposé, n'est-ce pas, ces sujets sur les difficultés qu'éprouvent les Congolais pour se déplacer à l'intérieur du pays. On peut savoir pourquoi.
Oui, parce que c'est une situation anormale que des Congolais qui vivent dans leur pays, dans leur propre pays, aient des difficultés à voyager d'une province à une autre. Donc on connaît des Congolais, des compatriotes qui sont bloqués à Kinshasa. Par manque d'avion, il faut attendre 2 semaines, 3 semaines pour avoir les vols. Et la raison est simple. Il y a la compagnie Congo Airways qui a connu un problème. Et j'avais personnellement suivi le DG de la dite société qui avait dit que pour relancer Congo Airways, il faut au moins 60 millions de dollars. Et il y a CAA qui était tombé en panne, je crois l'Airbus qui devait quitter Lubumbashi pour Kinshasa, il semble qu'il y a un réacteur qui avait pris feu, il fallait retourner à l'aéroport et cela a endommagé l'avion. Pour réparer aussi, c'est des millions. Et quand je suis à Kinshasa, je suis vraiment très choqué de voir comment les champagnes coulent à flot au Congo Flev Hotel, à Pullman, je ne sais pas où, là, partout, nos autorités, c'est la coule douce, alors qu'il y a des problèmes très, très sérieux qui nécessitent leur intervention. On ne sait pas pourquoi on dépense des millions de dollars pour des futilités, alors que la nation est sacrifiée. Il y a des Congolais qui ont besoin de découvrir leur capitale, mais ne savent pas le faire parce qu'il n'y a pas d'avion. Et même à l'intérieur des provinces, voyager, par exemple, de la ville de Bukavu vers les territoires de Shabunda, c'est 600 $. Donc, un vol d'aller-retour de 30 minutes, vous devez débourser 600 $. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avion. Donc, le problème, c'est qu'il y a le problème de manque d'ambition du côté de notre gouvernement, qui n'a pas vraiment investi dans l'aviation. Parce qu'à l'époque d'Isaïr, nous avons appris que Air Zaïre avait fait la fierté de la RDC. Les avions d'Air Zaïre pouvaient quitter la RDC et aller à l'étranger. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça ne nous honore pas. C'est une honte pour la République de voir qu'on n'a pas d'avions pour déplacer les Congolais à l'intérieur de leur pays. Et donc, pour moi, j'ai pensé que en débattre pourrait être une façon d'interpeller nos autorités. Tenez, par exemple, nous avons la RVA, la Régie des voies aériennes, qui fait payer à chaque Congolais, à chaque embarcation, une somme de 15 $. Donc, vous devez payer 5 $, je crois, ils appellent ça
taxe. Le GoPass. Le GoPass.
Oui, le GoPass. 15 $ par passager. Et ça, c'est tous les jours. Et donc, moi, je me dis, où va cet argent que perçoit la RVA?
Merci.
L'IGF, quand même, devait être touché aussi à faire des investigations de l'autre côté, là, et de nous donner la solution.
Merci, Madame Nene Bintou Iragim de Teresa. Merci beaucoup. Monsieur Cyril Kileba, comment on en est arrivé là, jusqu'au point de manquer des avions pour desservir l'intérieur du pays? Vous avez suivi Madame Nene Bintou Iragim de Teresa, qui explique cela par une sorte de manque, n'est-ce pas, d'ambition de la part du gouvernement, qui n'a pas pu investir dans ce secteur. Voilà, il n'est pas là, apparemment, il est coupé. Et Romega, c'est quoi votre perception de cette question à partir des paris d'où vous intervenez?
Ouais. Je pense que, comme ma collègue l'a dit il y a quelques minutes, il y a la question de l'investissement des autorités dans ce secteur, sachant que il y a eu quand même des projets au cours du mandat, des projets non aboutis. On peut rappeler ici l'autre projet de compagnie aérienne qui avait été initié par feu le ministre Chérubin Okende, qui était Air Congo et qui avait créé quelques problèmes compte tenu du fait qu'il existait déjà cette compagnie Congo Airways qui connaît aujourd'hui les difficultés qu'on constate. La question désormais, c'est comment est-ce qu'on sort de cette situation, sachant que les problèmes que connaît Congo Airways ne sont pas des problèmes qui se règlent en très peu de temps. Il y a la question de l'investissement, la question de la trésorerie, la question de l'investissement dans la compagnie en question, mais il y a aussi la question de l'état de ces appareils qui sont pour l'instant simplement cloué au sol. Est-ce qu'un plan de relance crédible maintenant peut être impulsé? C'est une question, sachant que, comme encore une fois, comme l'a dit l'intervenante qui m'a précédé, on va rentrer à nouveau dans une période, c'est un peu la même question qui se pose avec la question de l'approvisionnement en pétrole, c'est que on va rentrer dans une période où la campagne débute dans moins d'un mois, où à la fois les électeurs, les équipes de campagne, les candidats vont devoir se déplacer dans le pays, et ça ne pourra pas fonctionner s'il n'y a qu'une seule compagnie qui tourne de manière normale, j'allais dire, dans le pays. Il y a eu plusieurs tentatives. Encore une fois, la question du GoPass, c'est encore autre chose, mais il y a eu plusieurs tentatives de réguler un peu ce secteur. On se souvient qu'il y avait eu une tentative de plafonner les billets d'avion sur toute une série de destinations. Comment est-ce que tout ça maintenant va évoluer si Congo Airways continue de connaître les difficultés chroniques qu'elle connaît désormais? C'est une véritable préoccupation.
Merci Cyril Kileba, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, je vais vous poser la question de savoir comment on en est arrivé là, jusqu'au point même de manquer des avions pour desservir l'intérieur du pays. Vous avez suivi notamment Madame Nene Bintou Mudegereza qui attribue cela au manque, n'est-ce pas, d'ambition du gouvernement qui n'a pas investi dans ce secteur.
Oui, mais comment on en est arrivé là? Mais vous savez, les problèmes, ils sont réels. Et c'est des problèmes qui se sont accumulés au fil des ans. Mais ce qui est curieux, ce sont les solutions que les gouvernants ont toujours proposées. Comme là, on vous dit, bon d'accord, il n'y a plus d'avions et un député pense pouvoir interpeller les ministres de transport. Et quand le député a interpellé, ou quand il aura interpellé les ministres, il croit que c'est ça la solution. La solution, ce n'est pas ça, c'est de la comédie. Et c'est justement ce genre de comédie qui dure depuis des années. Donc, on fait de la comédie entre les parlements et les gouvernements, et puis on laisse les problèmes entiers, mais entre-temps, la population continue à payer, on continue à payer les GoPass, on continue à payer un nombre infini de taxes, et la situation elle-même n'est pas réglée. Donc, c'est une situation d'irrationalité accumulée qui nous revient à la figure. Alors maintenant, il faut... je ne sais pas si ces élections vont être une vraie solution au problème du Congo. Si les élections peuvent être une vraie solution, c'est que on devra avoir des vrais dirigeants qui sont d'abord capables de poser des problèmes, ensuite de proposer des solutions, et enfin de les résoudre effectivement. Pas seulement de venir constater qu'il y a des problèmes et de se remplir les poches eux-mêmes, et puis de partir et de laisser les problèmes qu'ils ont trouvés, ou même de les aggraver au moment où ils vont partir.
Merci, merci, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Néné Bintou Iragim de Kereza, Monsieur Cyril Kileba et Monsieur Romegra. Merci également à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation des DJ Daddy, d'Hervé Voka et des Def Vita sous la supervision d'Alex Sommet et de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Et on se sépare avec Bel Ami de Papa Noël, chanson sortie en 1985, et on se retrouve le samedi prochain.
Mama, ah, fenga belami
Arache pesa bien
Longola ngama bando seri
Arache pesa bien
Raisi zena yona lemi
Arache pesa bien